Joris Karl Huysmans, La cathédrale, chapitre 8. Cet état de tranquillité un peu dolente, dans laquelle Durtal reposait depuis son installation à Chartres, cessa brusquement. Un jour, l'ennui s'implanta en lui. L'ennui noir, qui ne permet ni de travailler, ni de lire, ni de prier, qui vous accable à ne plus savoir ni que devenir, ni que faire. Après de lourdes et d'obscures journées traînées devant sa bibliothèque, à feuilleter un volume, à le refermer, à en ouvrir un autre, dont il ne parvenait pas à comprendre une page, il tenta d'échapper à la lassitude des heures, par des heures de sortie, et il se résolut enfin à explorer Chartres. Il y découvrit des ruelles sourdes et des sentes folles, telles que ce chemin du tertre Saint-Nicolas qui dévale du haut de la cité en une fuite précipitée de marche. Puis le boulevard des Filles-Dieu, si désert sous ses allées plantées d'arbres, valait qu'on s'y arrêtât. En partant de la place Drouaise, on arrivait à un petit pont, là où se réunissaient les deux bras de l'Eure. À droite, c'était au-dessus de l'eau, tournant, avec les masures qui côtoyaient ses rives, l'escalade de la vieille ville, hissant au-dessus d'elle la cathédrale. À gauche, c'était le long du quai, en face d'une haie de grands peupliers, éventant des moulins hydrauliques, des scieries et des chantiers de bois, des lavoirs de blanchisseuses agenouillées dans des boîtes sur de la paille, et l'eau moussée devant elles décrivait des cercles d'encre éclaboussés par le coup d'aile d'un oiseau de gouttes blanches. Ce bras de la rivière, coulant dans les fossés des anciens remparts, enveloppait le bas de Chartres, bordé d'un côté par les arbres des avenues, de l'autre par des bicoques, par des jardins enlacés, descendant jusqu'au fil de l'Eure, et relié à l'autre rive par des passerelles de planches, par des ponceaux suspendus de fonte. Et près de la porte Guillaume, dressant les pâtés crénelés de ses tours, il y avait des maisons qui semblaient éventrées, qui montraient ainsi que les cagnards disparus de l'Hôtel-Dieu à Paris, une cave ouverte au ras de l'eau, un sous-sol d'allée au fond duquel s'apercevaient dans un jour de prison les marches d'un escalier de pierre. Et si l'on franchissait sur un petit pont à Dodane la porte Guillaume, dont la voûte conservait encore la rainure de la herse, que l'on abattait naguère pour clore, le soir, cette partie de la ville, l'on retrouvait un nouveau bras de la rivière, baignant encore le pied de bâtisse, jouant à cache-cache dans les cours, musant entre des murs. Et aussitôt le rappel d'une rivière semblable à celle-là, avec sa décoction de brou de noix brouillée de bulles, vous obsédait. Et pour aider au souvenir, pour mieux évoquer la vision de la mélancolique bièvre, l'odeur âpre et crue, chaude et comme vinaigrée du temps, fumée au-dessus de cette purée de jus de nèfle que roulait l'Eure. Internée maintenant à Paris dans des égouts, la bièvre paraissait s'être évadée de ses geôles et s'être réfugiée afin de vivre au plein air à Chartres, dans ces rues de la foulerie, de la tannerie, du massacre, envahie par les mégissiers, les chamoiseurs, par les fabricants de mottes. Seulement le paysage parisien aride et inquiet, touchant par son côté de souffrance muette, n'était plus dans cette ville. Ces rues suggéraient simplement l'impression d'une bourgade malade, d'un village pauvre. Il lui manquait à cette autre bièvre la séduction de l'épuisement, la grâce de la parisienne fanée, salie par la misère. Il lui manquait le charme fait de pitié et de regret, d'une déchéance. Telle qu'elle, cependant, ces rues, qui dessinaient une sorte de mouvement tournant autour de cette colline sur laquelle s'exhaussait la cathédrale, étaient les seules vraiment curieuses à parcourir à Chartres. Là, Durtal parvenait souvent à s'éloigner de lui-même, à rêver sur la détresse fatiguée de ses eaux, à ne plus songer à ses propres transes, puis la lassitude vint de ses promenades assidues dans un même quartier. Et alors il battit la ville dans tous les sens, tenta de se plaire au spectacle des gîtes usés, aux élégances de la tourelle de la reine Berthe, de la maison de Claude Huvet, des autres bâtiments qui avaient survécu au désastre des temps. Mais l'entrain qu'il mit à scruter ces restes galvaudés par l'enthousiasme prévu des guides ne dura guère. Alors il se dispersa dans les églises, encore que la cathédrale écrasa tout autour d'elle. Saint-Pierre, ancienne abbatiale d'un couvent bénédictin converti en une caserne, méritait qu'on s'y attardât à cause de la splendeur de ses vitraux habités par des abbés et des évêques qui vous dévisageaient d'un œil sévère en tenant des crosses. Et ses fenêtres avariées par l'âge étaient bizarres. Leurs ogives de verre incolore étaient traversées au milieu par une lame d'épée ayant perdu sa pointe. Et dans ses glaives carrés, méditaient saint Benoît et saint Maur, des apôtres et des papes, des prélats et des saints, se détachant, vêtus de flammes, dans la clarté blanche des vitres. Vraiment, les plus belles verrières du monde étaient à Chartres, et chaque siècle avait estampé ses sanctuaires de sa plus altière empreinte. Le 12e, le 13e, voire même le 15e, dans la basilique, le 16e à Saint-Pierre, et il subsistait quelques spécimens malheureusement épars et placés sans dessus-dessous, de carreaux peints par le 16e siècle. À Saint-Aignan, une autre église dont la voûte avait été badigeonnée de couleurs de pain d'épices, granulées d'anis, par les peintres de notre époque. Durtal tua quelques après-midi dans ses temples, puis l'attrait de ses études prolongées cessa, et le spleen s'imposa plus fort. Pour le distraire, l'abbé Plon l'entraîna hors de la cité, mais la bosse était si monotone et si plate qu'aucun incident de site ne pouvait se produire. Alors le prêtre le ramena dans d'autres quartiers de la ville, parfois certains monuments les requéraient, tels que la maison de force, située rue Sainte-Thérèse, près du palais de justice. À coup sûr, ils étaient peu imposants, ces édifices, mais en raison de leur origine, ils pouvaient servir de tremplin à de vieux rêves. Les murs de la prison avaient je ne sais quoi dans leur forme haute et rigide, dans leur aspect net et rangé, qui décelait le mur de clôture élevé par un carmel. Ils avaient en effet abrité des moniales de cet ordre. Puis, à quelques pas dans une impasse, s'ouvrait l'ancien cloître des Jacobins, devenu la maison mère de la grande communauté de Chartres, les sœurs hospitalières de Saint-Paul. L'abbé Plon lui fit visiter ce monastère, et il garda le souvenir enjoué d'une promenade en l'air sur les anciens remparts. Le chemin de ronde avait été conservé par les religieuses, et il s'étendait en une longue et étroite allée qui tournait, en vous conduisant à chacun de ses bouts, devant une statue de Madone. L'Immaculée Conception d'un côté, et la Vierge Mère de l'autre. Et cette allée, sablée de cailloux de rivière et liserée de fleurs, courait bornée à droite par l'abbaye et le noviciat, surplombée à gauche le vide, en plongeant sur l'avenue de la Butte des Charbonniers, longée elle-même par la rue de la Couronne, et derrière elle fuyaient les pelouses d'herbe du clos Saint-Jean, la chaussée du chemin de fer, des taudis d'ouvriers et des couvents. « Tenez, disait l'abbé, voici derrière le remblai de la ligne de l'Ouest, la maison des sœurs de Notre-Dame et les Carmélites. Ici, plus près de nous, en deçà de la voie des trains, les petites sœurs des pauvres. Au reste, la ville foisonnait de cloîtres. Sœurs de la Visitation, sœurs de la Providence, sœurs de Bon Secours, dames du Sacré-Cœur, vivaient en des ruches rapprochées à Chartres. Des prières bourdonnaient de toutes parts, montées en des fumées odorantes d'âmes au-dessus de la cité qui, en guise d'office divin, ne lisait que les mercuriales des blés et les cotes de ces marchés aux chevaux qui réunissent, à certains jours, dans les cafés de la place, tous les maquignons du Perche. En sus de cette promenade sur les vieux remparts, ce monastère des Sœurs de Saint-Paul convenait encore par son calme et sa propreté. Dans de silencieux couloirs, l'on apercevait des dos de religieuses, croisés par le triangle blanc d'un linge, et l'on entendait le cliquetis de gros chapelets noirs à chaînons de cuivre se heurtant sur la jupe, à la trousse pendue des clés. La chapelle Santé sans Louis XIV était tout à la fois enfantine et pompeuse, trop glacée d'or et trop parquetée de cire, mais un détail intéressait. À l'entrée, les murs avaient été remplacés par des glaces sans teint. Et l'hiver, dans une salle chaude, les malades pouvaient s'asseoir devant la paroi de verre et suivre les cérémonies et écouter le plein chant de solemne que les religieuses avaient eu le bon goût d'apprendre. Cette visite raccorda Durtal, mais forcément il compara les heures quiètes, égouttées dans ce couvent, aux autres et son dégoût s'accrut de cette ville, de ses habitants, de ses avenues, de sa fameuse place des Épars, qui joue au petit Versailles avec son cercle d'emphatiques autels et sa ridicule statue de Marceau au centre. Et la veulerie de cette bourgade qui s'éveillait à peine au lever du soleil et redormait à la brune. Une seule fois, Durtal la vit alerte. Ce fut le jour où Monseigneur le Tillois des Mauflaines prit possession de son siège. Alors subitement dans la ville galvanisée des plans surgirent. Les corps constitués des libéraires et des gens qui restaient enfermés chez eux depuis des années sortirent. On réquisitionna chez les maçons des perches d'échafaudage, on jucha à leur sommet des oriflammes jaunes et bleues, et l'on relia ses mâts entre eux par des guirlandes de lierre feuilles cousues, les unes sur les autres, par du fil blanc. Et Chartres, épuisé, souffla. Surpris par cet apparat imprévu et par ce simulacre inusité de vie, Durtal s'était rendu au devant de l'évêque jusqu'à la rue Saint-Michel. Là se dressait planté sur une grande place, importante de gymnastique, débarrassé de ses trapèzes et de ses anneaux, entouré de branches de sapin, de fleurs en papier d'or et surmonté d'un faisceau de drapeaux tricolores s'écartant en lames d'éventail, sous un bouclier peint de carton. Cela mimait l'arc de triomphe sous lequel des frères des écoles chrétiennes devaient charrier le dé. Et la procession qui était allée chercher l'évêque à l'hospice Saint-Brice, où selon un usage séculaire, il couche la nuit de son arrivée dans son diocèse, s'était déroulée sous la pluie fine des cantiques, coupée par l'averse des cuivres que déchaînait une fanfare pieuse. Lentement, à pas comptés, le cortège défilait entre deux haies de foules massées sur les trottoirs. Partout, les croisées pavoisées de banderoles exposaient des grappes de visages et des corps penchés séparés au milieu par la balustrade des fenêtres. En tête, derrière les dos chamarrés de pesants Suisses, serpentaient en deux bandes, tenant toute la chaussée, les filles des écoles congrégationnistes, habillées de bleu cru et voilées de blanc. Puis venaient les délégations des nonnes de tous les ordres installés dans le département, sœurs de la Visitation de Dreux, dames du Sacré-Cœur de Châteaudun, sœurs de l'Immaculée Conception de Nogent-le-Rotrou, les tourières des moniales en clôture à Chartres même, et des sœurs de Saint-Vincent de Paul et des Clarisses, qui tranchaient avec leurs robes d'un gris bleuté et d'un brin de motte à brûler sur les costumes noir des autres sœurs. Mais ce qui était bizarre, c'était la forme variée des coiffes. Les unes avaient des œillères molles et lisses, d'autres les portaient tuyautées et durcies par de savants emplois. L'on apercevait la face de celle-ci qu'au fond d'un tunnel blanc. La physionomie de celle-là, au contraire, se voyait dégagée dans un grand cadre ovale et gaudronné de linge. Mais elles allongeaient derrière leur nuque des cônes de toile amidonnées, lustrées par de puissants fers. En regardant ce champ de Béguin, Durtal pensait à ces paysages de toits parisiens où les tuyaux de cheminée affectent ces aspects de cornettes, comme en arboraient ces religieuses, de chapeaux de gendarmes, comme en exhibaient ces Suisses. Et derrière ce défilé de jupes sombres sonnèrent telles que des fanfares les robes vermillons de la maîtrise. Les enfants marchaient les yeux baissés, les bras croisés, sous la pèlerine rouge, frangée d'hermine, et après eux, quelques pas en avant, les autres groupes. Deux coules blanches éclatèrent, celle d'un picpusien et celle d'un trappiste, représentant les trappistines de la cour pétrale dont il était l'aumônier. Enfin, une multitude noire piétinait le grand séminaire de Chartres et le petit séminaire de Saint-Chéron, devançant le clergé à la suite duquel, sous un dé de velours amarante, brodé d'épis et de raisins d'or, et paré aux quatre coins de plumes de catafalque couleur de neige, cheminée mitre en tête et crosse au poing, Monseigneur le Tillois des Mouflaines. Au geste de l'évêque bénissant la rue, des lazares inconnus surgirent, des morts oubliés ressuscitèrent, sa grandeur multipliait le miracle du Christ. Des vieillards éteints, tassés dans des fauteuils, sur le seuil des portes ou sur le bord des fenêtres, se ranimaient pour une seconde et retrouvaient la force de se signer. Ces gens que l'on croyait enterrés depuis des années parvenaient presque à sourire. Des yeux ébahis, de très anciens enfants, contemplaient la croix violette que dessinait la main gantée du prélat dans l'air. La nécropole qu'était Chartres se muait en une maison de maternité. Dans l'excès de sa joie, la ville revenait à l'enfance. Mais quand le dé fut passé, ce fut bien autre chose. Durtal, effaré, hennit. Le spectacle auquel il assistait devenait fou. À la queue de l'évêque, une cour des miracles se dandinait en flageolant. Une colonne de vieux birbes, costumés avec les friperies vendues des morgues, ballottés, se soutenant sous les bras, s'étayant les uns aux autres. Tous les décrochés moissards d'il y a 20 ans ajustaient leurs mouvements, les accompagnaient sur eux. Des culottes à pont ou à pied d'éléphant, des pantalons ballonnés ou collants, tissés d'étoffes lâches ou rétractiles, refusaient de se joindre aux bottines, laissaient voir des pieds ou des élastiques grouillés comme des vermines, des chevilles d'où coulaient des vermicelles cuits dans de l'encre, puis c'était d'invraisemblables vestons ras et déteints, taillés dans des draps de billard, dans des prélards élimés, dans des rebuts de bâches, des redingotes découpées dans de la tôle, des vernis dans l'arrêt du dos et au coude, des gilets glauques parsemés de fleurettes et fermés par des boutons en fromage de cochon sec. Mais tout cela n'était rien. Ce qui était prodigieux, hors de toute réalité, dûment insane, c'était la collection de chapeaux hissés sur ses défroques. Les spécimens des couvre-chefs abolis, perdus dans la nuit des âges, s'étaient assemblés là. Les vétérans s'avançaient coiffés de boîtes à manchons et de tuyaux à gaz, d'autres exposaient des hauts de forme blancs, pareils à des seaux renversés de toilette, ou à des bondons percés dans le bas d'un trou. D'autres encore se pavoisaient de feutres semblables à des éponges, de bolivars hérissés et velus, de melons à bord plat imitant des tourtes posées sur des assiettes. D'autres enfin affichaient des chapeaux à claques qui gondolaient, jouaient de l'accordéon tout seuls, avec leurs côtes visibles sous la soie. La démence des gibus dépassait le possible. Il y en avait de très élevés dont le fût menait à des plateformes évasées telles que les shakos des voltigeurs du Premier Empire. De très bas qui s'achevaient en gueules de tromblon, en tables de chapska, en peaux de chambre retournées d'enfant. Et au-dessous de ce sanhédrin de chapeaux sous, grimaçaient des figures ridées de vieillards avec des pattes de lapin le long des joues et des poils de brosse à dents sous le nez. Durtal fut secoué par un rire inextinguible devant ce carnaval d'invalides, mais bientôt son hilarité cessa. Il distinguait deux petites sœurs des pauvres qui conduisaient ce lycée de fossiles, et il comprenait. Ces braves gens étaient vêtus avec des hardes quêtées, ils étaient habillés avec des fonds d'armoire dont personne ne voulait plus. La cocasserie de leur accoutrement devenait touchante. Les petites sœurs avaient dû se donner bien du mal pour utiliser ces déchets de la charité. Et les vieux enfants, peu au courant des modes, se rengorgeaient, très fiers d'être ainsi mis. Durtal les suivit jusqu'à la cathédrale. Quand il arriva sur la petite place, le cortège, cahoté par un coup de vent, se débattait, pendu à des bannières qui se gonflaient ainsi que des voiles de navires, et entraînait les hommes cramponnés à leurs rampes. Enfin, tant bien que mal, tout ce monde s'était engouffré dans la basilique. Le tédéum avait jailli dans le torrent des orgues. À ce moment, il semblait qu'exalté par ce chant magnifique, l'église lançait dans les airs en un jet éperdu, montant encore. L'écho s'y répercutait à travers les siècles de cet hymne de triomphe qui avait tant de fois retenti sous ses voûtes. Pour une fois maintenant, la musique était d'accord avec la nef, parlait la langue que la cathédrale avait depuis son enfance apprise. Durtal exulta. Il lui parut que dans ses vitres de feu, Notre-Dame souriait, émue par ces accents que des saints qu'elle aima créèrent pour qu'il pût à jamais résumer en une décisive mélodie, en une unique prose, les louanges dispersées des fidèles, les joies informulées des foules. Mais subitement sa griserie s'évapora. Le tédéum était fini et un roulement de tambour et une sonnerie de clairon éclataient dans le transept. Et tandis que la fanfare de Chartres canonnait avec la balistique de ses sons les murs, il s'était enfui pour respirer loin de la multitude qui n'arrivait pas cependant à remplir le vaisseau. Et, après la cérémonie, il avait encore assisté au défilé des corps constitués, rendant visite au prélat dans l'évêché. Là, il s'était diverti sans honte. La cour qui précédait le palais regorgeait de prêtres. Tous les doyennés des archidiaconés de Chartres, de Châteaudun, de Nogent-le-Rotrou, de Dreux, avaient déposé derrière la grille d'honneur leur troupe de vicaires et de curés qui s'ébrouaient autour du manège vert d'une pelouse. Non moins comiques que les pensionnaires des petites sœurs des pauvres, les seigneurs de la ville affluaient et refoulaient les ecclésiastiques dans les allées. La tératologie vidait ses bocaux. C'était un grouillement de larves humaines, de têtes emboulées de canons et en œufs. Une série de visages vus au travers d'une bouteille, déformés par certains miroirs, échappés des albums fantastiques de Redon. C'était un musée de monstres en marche. L'habitude des métiers monotones, vécus de père en fils, dans une cité morte, figeait toutes les faces, et l'allégresse endimanchée de ce jour greffait sur ses laideurs transmises le ridicule. Tous les habits noirs de Chartres humaient l'air. Les uns dataient du directoire, absorbaient les coups, grimpaient à l'assaut des nuques, engloutissaient jusqu'aux oreilles, enflaient. D'autres, au contraire, avaient diminué dans les tiroirs et leurs manches raccourcies craquaient, sciant les aisselles de leurs maîtres qui n'osaient remuer. Une odeur de benzine et de camphre flottait au-dessus des groupes. Ces habits tirés le matin même de leur saumure et dessalés par les épouses, empestaient. Les tuyaux de poils étaient à l'avenant. Ils avaient grandi, poussé tout seuls dans les armoires, et ils se dressaient immenses, ramenés sur leurs colonnes de carton des épis de poils rares. Ce monde réunit s'admirer, se congratuler, presser des mains enduites de gants blancs, nettoyer au pétrole, frotter à la gomme élastique et à la mie de pain. Et subitement, un remous s'était creusé dans la cohue des laïcs et des prêtres qui se rangèrent, chapeau bas, devant un vieux landau de corbillard, traîné par une rosse éthique et conduit par une sorte de moujik, un cocher dont la face bouffée sous des broussailles lui sortant des joues et de la bouche, des oreilles et du nez. La carriole s'était amarrée devant le perron, et il en était descendu un gros homme, essoufflé tel qu'une baudruche, et sanglé dans un uniforme brodé d'argent, Puis, derrière lui, un monsieur plus mince, vêtu d'un habit apparemment bleu foncé et bleu clair, et tous saluèrent le préfet, qu'escortait un de ses trois conseillers de préfecture. Ils avaient soulevé leur bicorne empanachée de plumes, distribué quelques poignées de main et se perdaient dans le vestibule. Quand l'armée parut à son tour, représentée par un colonel de cuirassiers, par des officiers de l'artillerie et du train, par quelques fantassins gradés à culotte rouge, par un gendarme, et ce fut tout. Une heure après cette réception, la ville exténuée s'était rendormie, n'ayant même pas le courage de déplanter ses mâts. Les Lazares étaient retournés dans leur sépulcre, les vieillards ressuscités étaient à nouveau retombés morts. Les rues étaient vides, la réaction avait lieu. Chartres gisait, épuisé, pour des mois par cet excès. « Quelle cambuse, quelle turne !» s'exclamait Durtal. Certains soirs, las des après-midi internés au milieu des livres ou employés à suivre les heures canoniales dans l'église, à écouter des chanoines jouer languissamment de chaque côté du chœur, à la raquette avec des psaumes dont ils se renvoyaient en grommelant des volants de versets, il descendait fumer, après son dîner, des cigarettes sur la petite place. Pour Chartres, 8 heures du soir, c'était 3 heures du matin pour une autre ville. Aussi tout était-il éteint et tout était clos. Pressé de se coucher, le clergé avait, dès 7 heures, bouclé la Vierge. Pas de prière, pas de bénédiction, rien dans cette cathédrale. Ces instants où, lorsque l'on est agenouillé dans l'ombre, on croit que la mère est plus présente, plus près de vous, plus à vous, ces minutes d'intimité où on lui raconte moins timidement ses pauvres maux, n'existaient point à Notre-Dame. Ah, l'on ne s'épuisait pas en de tardives oraisons dans cette basilique. Mais s'il ne pouvait pénétrer dans son intérieur, Durtal pouvait au moins rôder dans ses alentours. À peine éclairée par les indigentes lueurs de réverbères isolés dans les coins de la place, la cathédrale prenait une étrange forme. Ses porches s'ouvraient en des cavernes pleines de nuit, et le parcours extérieur de sa nef, compris entre les tours et l'abside, avec ses contreforts et ses arcs-boutants devinés dans l'ombre, se dressait ainsi qu'une falaise rongée par d'invisibles mers. L'on avait l'illusion d'une montagne déchiquetée à sa cime par des tempêtes, creusée dans le bas par des océans disparus de profondes grottes. Et si l'on approchait, l'on discernait dans l'obscurité de vagues sentiers abrupts courant le long de la falaise, serpentant en galeries au bord des rocs. Et parfois, dans ces noirs chemins, de blanches statues d'évêques surgissaient en un rayon de lune, hantant comme des revenants ces ruines, bénissant avec leurs doigts levés de pierre les visiteurs. Cette promenade dans le circuit de cette cathédrale qui, si légère, si fluette pendant le jour, grossissait avec les ténèbres et devenait farouche, n'était pas faite pour dissiper la mélancolie de Durtal. Cet aspect de brèches frappées par la foudre et d'antres abandonnées par les flots le jetait dans de nouvelles rêveries et finissait par le ramener à lui-même, par aboutir, après bien des vagabondages d'idées, à ses propres décombres. Et une fois de plus, il se sondait l'âme et essayait de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. « Je m'ennuie à crever », se disait-il. « Pourquoi ?» Et à vouloir analyser cet état, il arrivait à cette conclusion. « Il n'est pas simple, mais double mon ennui. Ou tout au moins, s'il est unique, il se divise en deux parties bien distinctes. J'ai l'ennui de moi-même, indépendant de toute localité, de tout intérieur, de toute lecture. » Et j'ai aussi l'ennui de la province, l'ennui spécial inhérent à Chartres. Oh, de moi-même, ah oui, par exemple, ce que je suis las de me surveiller, de tâcher de surprendre le secret de mes mécomptes et de mes noises. Mon existence, quand j'y songe, je la jaugerai volontiers de la sorte. Le passé me semble horrible, le présent m'apparaît faible et désolé, et quant à l'avenir, c'est l'épouvante. Il se tut, puis... Les premiers jours ici, je me suis plu dans le rêve suggéré par cette cathédrale. Je croyais qu'elle serait un réactif dans ma vie, qu'elle peuplerait ce désert que je sentais en moi, qu'elle serait en un mot, dans l'atmosphère provinciale, une aide. Et je me suis leurré. Certes, elle m'opprime toujours, elle m'enveloppe encore dans l'ombre tiède de sa crypte. Mais je raisonne maintenant, je la scrute dans ses détails, j'essaie de causer d'art avec elle. Et je perds, à ses recherches, l'impression irraisonnée de son milieu, le charme silencieux de son ensemble. Maintenant, c'est moins son âme qui me hante que son corps. J'ai voulu étudier l'archéologie, cette misérable anatomie des édifices. Je suis devenu humainement amoureux de ses contours et le côté divin a fui pour ne laisser place qu'au côté terrestre. Hélas, j'ai voulu voir et je me suis mal édifié. C'est l'éternel symbole de la psyché qui recommence. Et puis n'y a-t-il pas aussi, dans cette lassitude qui m'accable, de la faute à l'abbé Gévreuse? Il a épuisé pour moi, en m'en imposant l'accoutumance, les vertus pacifiques et pourtant révulsives du sacrement. Et le résultat le plus clair de ce régime, c'est que je suis tombé l'âme à plat, sans force pour résister. « Et non, reprit-il après un silence, me voici encore à rabâcher mes permanentes présomptions, mes infatigables soucis. Me voilà une fois de plus injuste envers l'abbé. Ce n'est pas cependant de sa faute si la fréquence de mes communions les rend frigides. J'y cherche des sensations, et il faudrait pourtant se convaincre d'abord que ses désirs sont méprisables. Se persuader ensuite que c'est précisément parce que ses communions sont glacées qu'elles deviennent méritoires et sont meilleures. Oui, c'est facile à raconter, mais quel est celui des catholiques qui les préfère celles-là aux autres? Des saints sans doute, mais aussi en souffrent. C'est si naturel de demander à Dieu un peu de joie, d'attendre de cette union qu'il appelle un mot affectueux, un signe, un rien, montrant qu'il pense à vous. L'on a beau faire, on ne peut pas ne point envisager comme douloureuses les mortes consomptions de ces vivants azimes. Et l'on a bien de la peine à confesser que notre Seigneur a raison de nous cacher le mal qu'elle nous évite et les progrès qu'elle réalise. Car sans cela, nous serions peut-être sans défense contre les attaques de l'amour-propre et les assauts de la vanité, sans abri contre nous-mêmes. Enfin, quelle qu'en soit la cause, je ne suis pas mieux à Chartres qu'à Paris, concluait-il, et quand ses réflexions l'assaillaient le dimanche surtout, il regrettait d'avoir accompagné l'abbé Gévreusin dans cette province. À Paris, ce jour-là, il avait au moins son temps défrayé par les offices. Le matin, il pouvait messoyer chez les bénédictines ou à Saint-Séverin, écouter les vêpres et les complies à Saint-Sulpice. Ici, rien, et cependant, où réunir de meilleurs éléments pour exécuter le répertoire grégorien qu'à Chartres, à part quelques antiques basses qui aboyaient et qu'il eût été bien nécessaire d'abattre? Il y avait une gerbe opulente de son frais, une salette de près de 100 enfants qui eussent pu dérouler, dans de limpides voix, les simples mélodies du vieux plain-chant. Mais en guise de cantilène liturgique, un maître de chapelle imbécile parquait, dans cette malheureuse cathédrale, une ménagerie d'air forain qui, lâché le dimanche, grimpait avec des gambades de ouistiti le long des piliers sous les voûtes. L'on pliait à ses singeries musicales les voix ingénues de la maîtrise. Décemment, à Chartres, il était impossible d'assister à la grand-messe. Les autres offices ne valaient pas mieux. Aussi Durtal était-il réduit pour entendre les vêpres à descendre dans le bas de la ville, à Notre-Dame de la Brèche, une chapelle où un prêtre, ami de l'abbé Plomb, avait instauré le chant de solème et patiemment formé une petite manécanterie composée d'ouvriers fidèles et de mômes pieux. Ses voix, celles des gosses surtout, étaient médiocres, mais l'expert musicien qu'était ce prêtre les avait quand même ajustées et polies, et il était parvenu en somme à imposer l'art bénédictin dans son église. Seulement, elle était si laide, si tristement embellie d'images, Notre-Dame de la Brèche, qu'il fallait fermer les yeux pour y séjourner. Et dans cette houle de réflexions sur son âme, sur Paris, sur l'Eucharistie, sur la musique, sur Chartres, Durtal finissait par s'abasourdir pour ne plus savoir où il était. Parfois, cependant, il trouvait un peu de calme, et alors il s'étonnait, ne se comprenait plus. Regretter Paris, se disait-il alors, pourquoi? Est-ce que l'existence que j'y connus diffère de celle que je mène ici? Est-ce que les églises, est-ce que Notre-Dame de Paris, pour en citer une, n'était pas exécrée par de sacrilèges flonflons comme Notre-Dame de Chartres? D'autre part, je ne sortais guère pour flâner dans de fastidieuses rues, et je ne fréquentais en fin de compte que l'abbé Gévreusin et Madame Bavoil, et je continue à les visiter même plus souvent ici. J'ai en outre gagné, en me déplaçant, un compagnon savant et aimable, l'abbé Plomb. Alors, puis un beau matin, sans qu'il s'y attendît, tout s'éclaira. Très lucidement, il comprit qu'il errait sur de fausses pistes, et découvrit sans même la chercher, la vraie. Pour rencontrer les causes ignorées de ses velléités, d'il ne savait quoi, et de ses inintelligibles malaises, il avait suffi qu'il remontât dans sa vie et qu'il s'arrêtât à la trappe. En somme, tout dérivait de là. Arrivé à ce point culminant de son recul, il pouvait ainsi que du haut d'un mont embrasser d'un coup d'œil le versant des années descendues depuis qu'il avait quitté ce monastère, et il discernait maintenant dans ce panorama penché de ses jours ceci. Dès sa rentrée à Paris, l'appétence des cloîtres s'était sans discontinuer infiltrée en lui. Ce rêve de se retirer loin du monde, de vivre placidement dans la retraite auprès de Dieu, il l'avait poursuivi sans relâche. Sans doute il ne se l'était formulé qu'à l'état de postulations impossibles et de regrets, car il savait bien qu'il n'avait ni le corps assez solide, ni l'âme assez ferme pour s'enfouir dans une trappe. Mais une fois lancé sur ce tremplin, l'imagination partait à l'avant-vol, sautait par-dessus les obstacles, divaguait en de flottantes songeries, où il se voyait moine dans un couvent débonnaire, desservi par un ordre clément, amoureux de liturgie et épris d'art. Il devait bien hausser les épaules quand il revenait à lui et sourire de ses avenirs fallacieux qu'il se suggérait dans ses heures d'ennui, mais à cette pitié de l'homme qui se prend en flagrant délit de déraison succédait quand même l'espoir de ne pas perdre entièrement le bénéfice d'un bon mensonge, et il se remettait à chevaucher une chimère qu'il jugeait plus sage, aboutissait à un moyen terme, à un compromis, pensant rendre l'idéal plus accessible en le réduisant. Il se disait qu'à défaut d'une vie monastique réelle, il s'en susciterait peut-être une suffisante illusion en fuyant le tohu-bohu de Paris, en s'inhumant dans un trou. Et il s'apercevait qu'il s'était absolument dupé lorsque, discutant la question de savoir s'il délaisserait Paris pour aller s'installer à Chartres, il lui avait semblé s'être décidé sur les arguments de l'abbé Givrezin et les instances de Madame Bavoil. Certainement, sans se l'avouer, sans se l'expliquer, il avait surtout agi sous l'impulsion de ce rêve si constamment choyé. Chartres n'était-il pas une sorte de havre conventuel, de monastère complaisant, où il se conserverait toute sa liberté et ne renoncerait pas à son bien-être? En tout cas, n'était-ce point, à défaut d'un inaccessible à ses terres, une pâture jetée à ses désirs? Et en admettant qu'il parvint à se débarrasser de souhaits trop exigeants, ce repos définitif, cette paix auquel il aspirait depuis son retour de la trappe. Et rien de tout cela ne s'était réalisé. Cette impression éprouvée à Paris qu'il n'était pas assis, il la gardait à Chartres. Il se sentait en camp volant, perché sur une branche. Ce faisait l'effet d'un homme qui n'est pas chez lui, mais qui s'attarde dans un meublé dont il faudra déguerpir. En somme, il s'était déçu quand il s'était figuré que l'on pouvait assimiler une chambre solitaire dans un alentour muet à une cellule. Le train-train pieux dans l'atmosphère d'une province n'avait aucun rapport avec le milieu d'une abbaye. L'illusion du cloître n'existait pas. Cet échec, enfin constaté, exaspéra l'ardeur de ses regrets, et le mal qui était demeuré à l'état confus, à l'état latent à Paris, éclata, net et clair, à Chartres. Alors ce fut une lutte sans répit avec lui-même. L'abbé Givrezin, qu'il consultait, se bornait en souriant à le traiter ainsi qu'on traite dans un noviciat ou dans un séminaire le petit postulant qui vient avouer une grande mélancolie et une persistante fatigue. Enfin, de ne pas prendre son mal au sérieux, on lui affecte que tous ses camarades subissent les mêmes tensions, les mêmes épreintes. On le renvoie consolé, tout en ayant l'air de s'en moquer. Mais au bout de quelque temps, cette méthode échoua. Alors l'abbé tint tête à Durtal, et un jour que son pénitent gémissait, il lui répondit « C'est une crise à supporter ». Puis négligemment, après un silence, il ajouta « Vous en verrez bien d'autres ». Et comme Durtal se cabrait sur ce mot, il l'accula au pied du mur, voulant lui faire avouer l'inanité de ses luttes. « Le cloître, reprit-il, vous obsède. Eh bien, mais qui vous empêche d'en tâter? Pourquoi ne vous séquestrez-vous pas dans une trappe? Vous savez bien que je ne suis pas assez robuste pour endurer ce régime. Alors faites-vous oblat, rejoignez à Notre-Dame de l'Âtre, monsieur Bruno. Ah, quant à ça, non, par exemple. L'oblature de la trappe, c'est encore Chartres. C'est une situation moyenne, mitigée. Monsieur Bruno restera toujours hôte et ne sera jamais moine. Il n'a en somme que les inconvénients des communautés et pas les avantages. Il n'y a point que les trappes, répliqua l'abbé. Devenez père ou oblat bénédictin, moine noir. Leur règle doit être douce. Vous vivrez dans un monde de savants et d'écrivains. Que pouvez-vous désirer de plus? Je ne dis pas, mais... Mais quoi? Et je ne les connais point. Rien n'est plus facile que de les connaître. L'abbé Plon est un grand ami de Solesmes. Il vous procurera pour ce couvent toutes les recommandations que vous voudrez. Dame, c'est à voir. Je consulterai l'abbé, fit Durtal, qui se leva pour prendre congé du vieux prêtre. Notre ami le bourru vous travaille, lança Madame Bavoil, qui avait entendu de la pièce voisine dont la porte était ouverte la conversation des deux hommes. Elle entra, tenant son bréviaire. À ça, reprit-elle en le regardant sous ses lunettes, « Pensez-vous donc qu'en déménageant son âme de place, on la change? Votre ennui, il n'est ni dans l'air, ni autour de vous, mais en vous. Ma parole, à vous entendre, on croirait qu'en se transférant d'un lieu dans un autre, on échappe à ses discordes et qu'on parvient à se fuir. Or, rien n'est plus faux. Demandez au père. » Et lorsque Durtal, qui souriait gêné, fut parti, Madame Bavoil interrogea son maître. « Ah ça, qu'a-t-il au juste? L'épreuve des sécheresses le lamine, répondit le prêtre. Il subit une opération douloureuse, mais sans danger. Du moment qu'il conserve le goût de la prière et ne néglige aucun de ses exercices religieux, tout va bien. C'est là la pierre de touche qui nous sert à discerner si dans ce genre d'affection l'origine est divine. Mais père, il serait quand même nécessaire de le soulager. Je ne puis rien sinon prier pour lui. Autre question, il est tenté par les monastères, notre ami. Peut-être bien que c'est là que vous devriez l'envoyer. L'abbé eut un geste évasif. Les sécheresses et les fantasmes qu'elles engendrent ne sont point indices de vocation, fit-il. J'ajouterai même qu'elles ont plus de chances de s'accroître que de s'atténuer dans un cloître. Et à ce point de vue, la vie conventuelle peut être pour lui mauvaise. Cependant, il n'y a point que cette question à envisager. Il y a autre chose. Puis qui sait? Et après un silence, il reprit. Tout est possible. Donnez-moi mon chapeau, Madame Bavol. Je vais causer avec l'abbé Plon de Durtal.